Bonjour à tous. Alors, j'ai oublié de lancer l'enregistrement, donc l'introduction n'a pas été enregistrée, donc je la refais juste maintenant pour que ça enchaîne ensuite avec ce qui a été enregistré en live. Donc, pourquoi ce sujet, les noms dans la Bible? Moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi on peut dire que Jésus est le plus beau nom. En quoi on peut dire qu'un nom est beau? C'est pas plutôt la personne qui le porte qui est belle, mais pourquoi on parle du nom? Voilà. Moi, je trouve que ça fait porter l'attention sur un artifice au lieu de s'intéresser à la personne. En plus, bon, la plupart du temps, nos parents ont choisi notre prénom parce qu'il allait bien avec notre nom de famille, ou alors parce qu'ils voulaient honorer un de nos aïeuls, ou tout simplement parce qu'ils l'aiment depuis longtemps. De nos jours, on s'identifie plus vraiment avec la signification de notre nom, et puis en plus, on crée régulièrement de nouveaux prénoms aussi pour se différencier. J'ai donc voulu regarder de plus près le sujet des noms pour essayer de réfléchir à tout ça. On va d'abord regarder dans la Bible, dans l'Ancien puis dans le Nouveau Testament, avec des exemples de noms et leur signification. Et puis on verra que certains noms changent au cours du temps et on finira en regardant plus précisément les noms de Dieu et de Jésus et ce qu'on peut y trouver. Voilà, donc avant de commencer sur les noms déjà, moi je ne connais pas du tout l'hébreu, donc j'ai dû me documenter un peu sur Internet. Donc il y a des interprétations qui sont un peu différentes, j'ai aucune capacité à juger si c'est celle-là ou celle-là qui est meilleure. Donc ça change pas le message global, mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec une traduction, évidemment, vous pouvez venir me voir sans aucun problème. Alors, déjà, en fait, à l'époque, ils avaient une façon de nommer, et aujourd'hui, on a peut-être une autre façon de nommer. Donc avant de démarrer là-dessus, qu'est-ce qu'un nom? En fait, c'est un mot qui désigne une personne, et donc qui permet d'identifier un individu de manière unique. Donc avant le Moyen Âge, les noms de famille, ils n'existaient pas. Donc il n'y avait pas de Jean-Michel Moïse, hein, c'était Moïse. C'est au moment du Moyen Âge qu'il y a eu les patronymes qui ont été rajoutés, parce qu'il commence à y avoir un nombre de personnes un peu important. Mais on avait quand même dans le Nouveau Testament des précisions sur les gens. On avait Jean le Baptiste, Judas l'Iscariote, parce qu'on commençait à avoir aussi un certain nombre de noms. Et donc pour les identifier de manière unique, on rajoutait des petites précisions. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai un homonyme en Alsace qui est maire d'une petite ville, donc des fois je reçois des mails de compte rendu de conseil communal, et voilà, donc il s'appelle Benoît Baumann aussi. Et donc là, on va peut-être rajouter encore d'autres choses pour nous différencier, soit une date, un lieu de naissance, c'est aussi pour ça que on a tous ces éléments qui nous sont demandés dans l'état civil, voir un numéro de sécurité sociale, et comme ça on est unique. Mais le nom, ça regroupe tous ces éléments-là. C'est ce qui fait qu'on est unique chacun. Voilà. À l'époque biblique, quand on regarde notamment au niveau de l'Ancien Testament, dans la Genèse, en fait, on a Dieu qui crée le monde par sa parole. Et il va donner le nom aux étoiles. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Donc on voit que la notion de création, elle est quand même intimement liée à la notion de nommage. Et ce qu'on a aussi, c'est quand il demande à l'homme de nommer les animaux. En fait, nommer, ça permet de différencier les choses. On n'a pas juste un magma, on a quelque chose d'unique qui va ressortir. Et donc, voilà, dans la création, on a beaucoup de nommage. Et nommer, ça a aussi un lien avec la création. Après, quand on regarde, on a des noms de gens dans l'Ancien Testament qui sont en lien avec le caractère de l'enfant. Donc le caractère de l'enfant, par exemple, on a Boaz, ça veut dire le courage, la force est en lui. On a Dalila, la femme de Samson, même si apparemment il y a un nom d'étymologie incertaine, ça pourrait évoquer en hébreu l'idée de faiblesse et en arabe celle de langueur ou de traîtrise. Elle diminue, elle affaiblit. Bon. Il n'y en a pas énormément quand même des gens où leur caractère est dans leur nom, mais la question c'est de se dire comment est-ce que le jour de la naissance, en fait, on peut déterminer le caractère de quelqu'un? Ou alors même à l'inverse, est-ce que c'est le prénom qui détermine le caractère de la personne? Voilà. Bon, il y a un peu beaucoup de choses là-dessus, notamment dans des magazines féminins, je ne vais pas trop me jeter là-dedans, mais il y en a quand même assez peu. Dans la Bible. Et une des clés, en tout cas, pour comprendre ce qu'on peut avoir de ce point de vue-là, c'est que le nom, il n'était pas forcément toujours donné à la naissance, apparemment. Donc lorsqu'un enfant naissait, le nom, il n'était pas donné dans l'immédiat, mais sauf s'il y avait une circonstance particulière qui entoure la naissance, on va le voir un peu après, mais l'enfant, il portait
en général le nom de son père. Et donc, bah, Joseph, il prenait le nom de Bar-Joseph. Enfin, si le père s'appelait Joseph, l'enfant prenait le nom de Bar-Joseph, fils de Joseph. Et en grandissant, quand il y a le caractère qui se révèle, et ben, c'est à ce moment-là qu'on peut donner un nom qui pouvait être le reflet de sa personnalité. Donc, ça peut expliquer aussi cette chose-là. Et ce n'est pas forcément juste à la naissance que ça se passait. Alors, moi aussi, j'ai été surpris. J'ai un collègue qui a eu un enfant, un collègue qui est juif. Et puis, il me dit, ah, ben, j'ai eu un enfant. Je lui dis, ah, ben, génial, félicitations, comment il s'appelle? Et puis il me répond surprise. Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'il s'appelle surprise l'enfant? Ou je comprenais pas trop. Et puis, je ne sais pas, 7-8 jours après, et il me dit, il me renvoie, je ne vais rien redemander. Il me dit, ah bah, il s'appelle, je ne sais plus, Michel, enfin, j'en sais rien. Je parle pas de toi, Michel, mais voilà. Et en fait, c'est là aussi que j'ai appris qu'aujourd'hui, bah, les juifs, en tout cas une partie des juifs, eh ben, les garçons, ils attendent 8 jours qu'ils soient circoncis pour annoncer le prénom. Donc on a aussi, même de nos jours, alors pas un dégalage énorme, c'est pas en 8 jours qu'on va comprendre le caractère d'un enfant, mais on a aussi, voilà, des façons de faire qui sont culturellement différentes aussi un peu des nôtres. Et donc, voilà, c'était pour la petite anecdote. Mais on a donc certains noms en lien avec un caractère, mais on a plus souvent un nom qui exprime la louange ou une qualité de Dieu. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. On a Judas, c'est Je louerai Yahweh. Éliud, Dieu de louange, de majesté. Josaphat, Yahweh est mon juge. Ozias, Yahweh a soutenu. Jotham, Yahweh est parfait. Ézéchias, Yahweh est ma force. Josias, Yahweh guérit. Hachim, Yahweh affermira. Et Élisée, mon Dieu sauve. Donc là, c'est aussi donc les parents qui, avec cette conviction, qui expriment dans le nom de leur enfant quelque chose de magnifique et qui a des traits de notre Dieu. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on retrouve quand même beaucoup plus souvent. Et on a aussi des cas où le nom va dépendre des circonstances de la naissance. J'ai dû le. Ouais, je ne l'ai pas forcément mis là. Si, je l'ai mis après, pardon. Voilà, donc des circonstances de la naissance. Donc on a par exemple Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob, donc ils étaient jumeaux, et quand ils sont nés. Je vais lire juste le passage dans Genèse 25. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. Voilà, il s'appelle Pelu, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Et Jacob, ça veut dire l'un qui tient le talon de quelqu'un ou le trompeur. Voilà, donc on a aussi donc ces circonstances de naissance qui font qu'on donne ces noms-là à ces gens. On a Isaac, il rit, donc c'est Dieu qui annonce à Abraham que Sarah, sa femme, elle allait enfanter et elle avait 90 ans. Et donc là, bah, il a ri. Et puis aussi, Sarah, quand il y a un ange qui lui a dit qu'elle allait avoir un enfant alors qu'elle était stérile et avancée en âge, bah, elle a ri. Donc Isaac, bah, voilà, il a pris ce nom de il rit. Ça rappelle aussi ce moment-là autour de cette circonstance de la naissance. On a Samuel aussi, nom de Dieu, cadeau de Dieu. Sarah, sa maman, était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a supplié Dieu et a promis de le consacrer à Dieu s'il lui donnait un enfant. Et donc, voilà, on a ce nom de cadeau de Dieu aussi dans le prénom Samuel. On a Ève, ça veut dire la vivante, c'est la mère de tous les vivants. Donc, ça aussi, bon, la naissance est peut-être un peu particulière, mais ça entoure les circonstances de ce début de vie. Zorobabel, tout simplement, c'est né à Babel aussi. Bah, voilà, pas forcément beaucoup d'imagination, mais pourquoi pas, en rapport avec ces circonstances de la naissance. Puis on a encore une catégorie, un nom qui exprime une expérience de vie des parents, ou même une prière, ou un souhait, une demande. Et là, c'est intéressant de voir la traduction des noms des fils et des filles de Jacob. Donc, il y avait 12 enfants, et là on a vraiment un recueil de sentiments dans les prénoms qui montre vraiment la façon dont notamment les femmes ont accueilli ces enfants. Donc, on avait Jacob qui avait d'abord épousé Léa, hein, qui s'était fait donc un peu avoir par son beau-père. Après, il a travaillé 7 autres années pour se marier avec Rachel. Et donc, Léa, la première, elle a pu avoir 4 enfants avec Jacob pendant que Rachel était stérile. Et donc, elle trouvait cette situation injuste. Et donc, elle a donné Rachel, sa servante, à Jacob pour avoir en quelque sorte, voilà, un enfant à elle. Vous connaissez l'histoire. Et donc, c'est là où on a par exemple Dan. Dan, c'est le fils de la servante de Rachel, Bilha et de Jacob. Et donc, Dan, ça veut dire Dieu est mon juge. Voilà, on a aussi cette justice qui arrive là. Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix. Puis après, il a eu un deuxième fils de la même façon, avec la même servante, il s'appelle Nephtali. Et là, ça veut dire celui qui lutte. Notamment, il est écrit dans Genèse, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. On sent aussi cette situation de vie qui ressort dans les prénoms. Et puis alors là, la première femme, Léa, elle a arrêté d'enfanter. Et donc, elle a appliqué la même technique avec sa servante que Rachel. Et donc, Léa a eu, via sa servante qui s'appelle Zilpa, elle a eu Gad. Gad, ça veut dire quel bonheur. Donc, elle était vraiment contente de pouvoir, voilà, de nouveau enfanter. On a après Aser, que je suis heureuse. C'est aussi le deuxième fils de cette même, de la servante de Léa et de Jacob. Et puis, elle a pu de nouveau enfanter. Et là, on a Issacar, Dieu m'a donné mon salaire, voilà, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Ça, c'est un verset dans Genèse 30, verset 18. Et puis, cette fois, on a aussi encore Zabulon, le fils de Léa. Dieu m'a fait un beau don parce qu'elle a eu encore un cadeau. Bon, j'ai pas fait les 12, mais c'est intéressant de voir qu'on a vraiment la vie de ces femmes avec Dieu et avec la façon dont voilà, elles traversaient les circonstances de vie qui ressort dans tous les noms qu'il pouvait y avoir. Et Joseph, d'ailleurs, on va faire un petit focus sur Joseph, mais Joseph, ça veut dire que Yahweh ajoute. Voilà, pour avoir d'autres enfants, c'était aussi une demande. Et lui, Joseph, donc il a été vendu par ses frères, il a été amené en Égypte, et donc il est devenu premier ministre de l'Égypte. Il a été vraiment béni, il a eu une famille, et son premier-né, il l'a appelé Manassé. Manassé, et donc ça c'est Genèse 41. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et après, il en a eu un deuxième, et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Voilà, donc c'est être fécond. Donc là, voilà la signification des noms des fils de Joseph. Ça montre aussi l'expérience personnelle vécue avec Dieu de Joseph dans le passé et dans le présent. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que ça exprime, hein, les prénoms, et notamment dans le milieu hébraïque. Et on va voir aussi que. Bah, ces prénoms, ils vont changer certains au fil du temps. Donc, dans l'Ancien Testament, on a notamment le cas de Abraham et Sarah, qui vont devenir Abraham et Sarah. Alors bon, selon les écritures qu'on trouve, des fois c'est Sarai avant, bon, il y a un peu différentes variations. Mais en fait, donc ça c'est Genèse 17. On a vraiment un passage qui est vraiment très long de toutes les promesses que Dieu fait à Abraham, en raccourci. Et en fait, il va décrire toute l'alliance que Dieu fait avec Abraham. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment une portée beaucoup plus large, je pense, que la perception que Abraham peut en avoir, qui va devenir une multitude. Et donc Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Et donc quand Abraham a cru aux promesses de Dieu, son nom, il a été changé. Donc il est passé de le Père est exalté à Père d'une multitude de nations. Voilà. Et puis au même moment, Dieu annonce que Sarah est enceinte, qu'elle aura un fils, et que son nom à elle aussi va changer, et que ça sera de Sarai ou Sarah, ça va devenir Sarah avec un H. Voilà. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une sémantique qui changeait. Il y en a qui disaient que ça passait de ma princesse vers princesse. Donc, bon, je ne sais pas trop quoi en tirer. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le changement de nom, il accompagne vraiment l'alliance de Dieu. Une promesse de Dieu pour Abraham et pour Sarah. Et donc, ça intervient vraiment à la fois en même temps pour Sarah et Abraham. Et Dieu veut les associer vraiment tous les deux à la mission à laquelle ils sont appelés. Alors, j'ai même trouvé que certains rabbins, ils avançaient avec humour que le rallongement du nom d'Abraham, c'est en fait l'accomplissement d'une promesse qu'on a dans un verset. C'est Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai grand ton nom et tu seras une source de bénédiction. Donc de passer de Abraham à Abraham, voilà, il y a même des gens qui parlent de l'exécution littérale de ce verset-là. Et puis après, il y a d'autres interprétations qui sont, je trouve, assez belles. Dieu, donc, il vient mettre, j'ai mis en majuscule, mais voilà, il vient rajouter un H dans Abraham et il met un H à la fin de Sarah. Alors bon, ça dépend un peu de la façon dont on l'écrit. Mais Yahweh en hébreu, ça s'écrit YHWH, il y a deux fois la lettre H. Et donc ce qu'ils disent, c'est qu'avec l'alliance qu'il fait avec Abraham et Sarah, en fait, Dieu il va donner un H à Abraham, un H à Sarah. Et en fait, donc les époux, ils ont chacun un H de Dieu qui sont ajoutés dans leur nom. Et donc Dieu vient vraiment au milieu de ce couple. Donc je trouve que c'était... Bon, je ne sais pas si c'est un peu loin comme interprétation, mais en tout cas, elle est plutôt jolie de voir que ça symbolise que cette alliance que Dieu fait à la fois avec Abraham et Sarah. Donc voilà, on voit quand même ce changement de nom, il n'est pas neutre et il exprime quelque chose quand même d'assez fort qui change vraiment leur vie et puis même leur destinée et la destinée de leurs enfants. Voilà, donc j'avais remis là. Alors, Jacob. Jacob, donc on a vu tout à l'heure, hein, ça veut dire un peu le trompeur. Son nom représentait aussi sa nature. Hein. On a vu que dans sa vie, il a acheté le droit d'aînesse de son frère en profitant de la situation, en lui vendant un plat de lentilles. Il a trompé son père pour avoir la bénédiction à la place de son frère. Voilà, donc vraiment cette nature trompeuse et la signification de ce nom, on le ressent vraiment dans tous les événements de sa vie, on le ressent dans toute cette histoire. Et puis il y a un épisode où il va lutter avec un ange. Donc vraiment une lutte physique avec Dieu. Et là, il va rechercher vraiment la bénédiction de Dieu. Et en fait, ce qu'on peut comprendre peut-être, c'est qu'il cherche la bénédiction de Dieu. Il n'est plus à essayer de tromper, à essayer d'obtenir par lui-même des choses, mais il voit que c'est de Dieu qu'il doit obtenir ses bénédictions. Donc on sent qu'il y a aussi un cœur nouveau, il y a quelque chose, une nouvelle façon d'aborder les choses peut-être. Et donc c'est un peu ce changement de nature qui conduit à Dieu de transformer son nom en Israël, qui veut dire celui qui lutte avec Dieu. Donc là aussi on a un changement de nom qui accompagne vraiment un changement de vie, voilà, quelqu'un qui se tourne vers Dieu et qui va avoir une suite un peu différente dans sa vie. Alors, on a aussi des noms qui ne sont pas forcément donnés par Dieu. Et on a Joseph quand il va aller en Égypte. Donc, en plus, Joseph, donc c'était une image pour nous parler de Jésus. Hein. Joseph, c'était un berger. Il a été rejeté par ses frères qui avaient que de la jalousie, du rejet, de l'agressivité. Donc là, on revoit bien l'image de notre Seigneur Jésus aussi. Et Joseph va sauver toute sa famille de la famine, voilà, en ayant survécu à toutes les intentions de mort. Alors lui, il n'est pas mort, mais le Seigneur est mort. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment l'image de Jésus dans Joseph. Il devient le chef de l'Égypte. Et là, il y a le Pharaon dans Genèse 41-45 qui lui donne un nouveau nom et qui lui donne Sapnac, ouais, à peu près, Panéac. Alors là aussi, je suis pas très bon en égyptien. Et donc, ça voudrait dire révélateur de secrets. Sauveur du monde, soutien de la vie. Alors c'est directement ce qu'a fait Joseph, hein, révélateur de secrets avec tous les songes. C'est quelque chose qu'il a eu au cours de sa vie quand on voit hein, tous les événements. Mais on a aussi le Seigneur hein, qui s'exprime à travers révélateur de secrets, la vie éternelle, tous ces éléments. Il va être l'aboutissement d'un certain nombre de promesses. Sauveur du monde, ben voilà, il a sauvé les gens de la famine, Joseph. Mais sauveur du monde, ça s'applique encore mieux à notre Seigneur. Et soutien de la vie, ben voilà, ça permettait aussi aux gens de continuer à vivre en Égypte. Et la famille de Joseph est venue même en Égypte pour essayer d'avoir des choses à manger. Et ça s'applique encore mieux au Seigneur Jésus avec la vie éternelle qui est derrière. Donc là, c'est le Pharaon qui donne un nouveau nom et qui, du coup, est assez intéressant de voir qu'on a tous ces éléments qui se rapportent aussi à notre Seigneur Jésus. Entre parenthèses, Daniel aussi, chez les Babyloniens, il va avoir un nouveau nom, il va s'appeler Belteshazzar, qui lui ne manifeste pas du tout quelque chose de beau comme ça, comme ce que peut avoir Joseph. Ça veut dire selon le nom de mon Dieu. C'est dans Daniel 4:8, c'est Nebuchadnezzar qui dit ça. Et donc c'est la référence de ce nom, c'est pas du tout au Dieu d'Israël, c'est pas du tout comme Joseph qu'on a vu, c'est vraiment le Dieu de Nebuchadnezzar, ou les dieux, je sais pas trop comment on doit dire, mais c'est vraiment une référence à des idoles, à des choses dont le monde est rempli. Donc le changement de nom, il est révélateur du milieu dans lequel Daniel va évoluer, mais pas forcément de la façon dont il va se comporter. Donc ça peut être aussi un symbole de la façon dont le monde peut aussi essayer d'imprimer notre caractère, son caractère sur les croyants. Mais en tout cas, on sait que Daniel, lui, il est resté fidèle. Et ce n'est pas ce nom-là qui va lui rester, c'est plutôt le nom d'avant. Donc je voulais équilibrer, on n'a pas forcément toujours des choses qui manifestent la gloire de Dieu dans des changements de nom. On a aussi, ouais. Alors Osée, ça veut dire délivrance. Et donc Osée, avec Caleb et 10 autres hommes, donc c'était un prince de la tribu d'Éphraïm, il a été envoyé par Moïse pour reconnaître le pays de Canaan. Donc c'est dans Nombre 13. Et lorsqu'il est envoyé, Moïse l'appelle plus Osée, mais il l'appelle Josué. Ça veut dire l'Éternel est sauveur. Et là, du coup, ben, on revient à des choses où on va manifester les choses du Seigneur Jésus, parce que Josué et Jésus, c'est vraiment la transcription du même nom hébreu. Et du coup, ça prend tout son sens avec le Nouveau Testament, notamment quand on regarde Colossiens 1, verset 13, celui qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc là, il y a. Et donc aussi, on a des choses, celui qui va reconnaître le pays promis avant qu'on y arrive. Donc dans la maison de mon père, je vais vous préparer une place. Voilà, on peut transposer aussi ce que Osée a fait et va devenir Josué, qui est beaucoup plus proche, donc celui qui nous sauve, l'image aussi du Seigneur Jésus dans cette modification de nom. Voilà, en tout cas, globalement, hein, ces changements de nom, ils ont vraiment une signification importante. C'est aussi parce que les noms ont une signification importante, particulièrement dans cette époque-là. Alors, dans le Nouveau Testament, on a aussi des changements de nom, mais tous ne sont pas non plus significatifs. Il y avait l'habitude apparemment d'utiliser deux noms, un grec et un romain, et notamment le Saul et Paul. On n'a pas, au moment de la conversion du chemin de Damas, il est encore appelé 11 fois Saul. Et donc, ce n'est pas à ce moment-là, on pourrait dire, ah bah oui, là aussi, avec le changement de conversion, on va avoir le changement de nom. Mais en fait, ça n'a pas lieu comme ça. C'est plutôt quand il est envoyé dans le reste du monde qu'on n'a plus de traces de Saul et ça devient Paul à chaque fois. Donc, ce qu'ils se disent, c'est que c'est plutôt une gréquisation de son nom Saul et qu'il avait peut-être un deuxième nom ou voilà, quelque chose qui était utilisé plutôt qui va utiliser par la suite. En tout cas, ce qu'on peut dire, rien qu'avec les deux noms, c'est quand même assez significatif parce que Saul, ça vient de Saül, hein, donc le premier roi d'Israël. Et donc, premier roi d'Israël, il y a quand même une notion de grandeur, c'est un nom qui marque quand même un certain respect. Et Paul, ça veut dire petit. Et donc, ce qu'on peut quand même voir, c'est que même si c'est pas utilisé à partir du moment où il se convertit, Saul, c'est que on a quand même d'une certaine grandeur, il est devenu petit, pas exactement au moment où il a rencontré Dieu, mais voilà, que c'est tout ce que le Seigneur nous apprend de petitesse, de modestie, d'humilité. Ben, en fait, Paul, là, après coup, dans son prénom, et pourtant, voilà, c'est quand même l'apôtre où on a beaucoup d'écrits qui nous permettent de comprendre mieux ce que. Et on en a lu ce matin ce que le Seigneur fait pour nous. Et voilà. Et pourtant, il s'appelle Petit et ça a été la pierre sur laquelle. Non, pardon. Voilà. En tout cas, non, c'est quelqu'un qui est quand même à la base de beaucoup d'éléments qui nous servent encore aujourd'hui. Et voilà, on voit ce suivi du Seigneur, ce chemin qu'il emmène, enfin, qu'il nous montre que dans l'usage du nom de Paul. On a aussi Joseph, un Joseph qui a été renommé par les apôtres. Il a été renommé Barnabas. Donc c'était un prophète, c'était un professeur de l'église à Antioche et il a travaillé avec Paul. Et dans Actes 4, 36, on voit Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite. Il est originaire de Chypre. Et là, ce changement de nom. En fait, ce n'est pas lui qui l'a voulu, mais c'est les apôtres qui l'ont appelé comme ça. C'est vraiment un beau témoignage de son service, parce qu'il a vendu sa terre, il a apporté la valeur aux apôtres, et du coup, il a été en consolation, en exhortation pour les nécessiteux. Donc là, il y a aussi un changement qui montre un changement de nom ou un complément de nom qui montre tout ce qu'il a pu faire positivement pour la communauté. Et là, j'y viens. Simon, du coup, a été renommé Pierre. Simon, c'était un nom assez connu dans le temps du Nouveau Testament. Et donc là, le nom qu'il reçoit de Jésus, il est vraiment lié à son avenir. Et c'est là où j'ai un peu anticipé. Et Pierre veut dire la pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Donc, on a des exemples de changements dans le Nouveau Testament, donc qui sont assez significatifs, hein, de changements de nom. Mais tout le monde ne change pas de nom. Et Apollos, lui, il est resté Apollos. Et pourtant, Apollos, c'est vraiment en référence avec un nom grec, hein, le dieu de la lumière et des arts, protecteur de la poésie et de la musique. Donc on peut très, très bien se dire, voilà, c'est pas forcément, il aurait plutôt intérêt à changer de nom par rapport à ce qu'il est. Mais non, lui, il continue à avoir ce nom-là. Donc il n'y a pas de côté systématique. Voilà, ça dépend de certaines conditions, de certaines circonstances plutôt que. Et en tout cas, on a quand même souvent une relation avec une nouvelle naissance ou un changement de vie, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Donc là, je trouvais intéressant, maintenant qu'on a vu un peu des changements, on a vu des noms, ce que ça pouvait signifier, des caractères, de voir en fait que finalement, on donne un nom quand on naît, et que finalement, quand on naît de nouveau, ben, pourquoi pas avoir un autre nom finalement. Ça peut être un peu logique. Les conséquences d'une nouvelle naissance, c'est d'avoir aussi un nom qui permet de tirer un trait aussi sur nos péchés passés. Donc si notre nom d'avant était en lien avec un caractère, le trompeur, comme on peut voir, ben, la nouvelle naissance, se tourner vers Dieu, ben, peut tout à fait, dans cette logique-là, modifier. Être modifié. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, je ne connais pas beaucoup de gens qui, en se convertissant, changent de prénom. Pourquoi pas, mais j'en connais pas personnellement. Mais en fait, quand on se convertit, en fait, on a un nouveau nom, mais plutôt un nouveau nom de famille, parce qu'on est adopté par Dieu, et ben là, on devient ses enfants, et donc on prend le nom de Christ, et du coup, on change tous de nom, même si on s'appelle toujours de la même façon. Ben voilà, on a un nom qui change, on devient chrétien, et Jésus nous appelle ses frères et ses sœurs. Et donc, ça, la première fois, c'est dans Acte 11, donc après l'ascension de Jésus et la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Vraiment, le nom de Jésus-Christ, il était vraiment ancré dans le cœur de toutes les personnes qui l'ont suivi, qui l'ont annoncé. On voit qu'il y avait un énorme zèle pour lui. Et donc, c'est là où, pour la première fois, on donne le nom de chrétien aux disciples. Et donc, le mot chrétien, ça vient de la langue latine populaire, donc de Christianus, tiré de Christ, qui est le Fils de Dieu, le Messie. Donc quand quelqu'un accepte Christ et reconnaît qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, et ben, en fait, le nom de cette personne, il est changé, le nom de famille, si on peut dire, et donc son statut, il est changé. Donc là, on a par exemple Éphésiens 2:1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, et donc par Christ, on reçoit un nouveau nom, un nouveau statut, et on est passé avec lui de la mort à la vie. Donc c'est ça, hein, la nouvelle naissance. Donc nous, chrétiens, on reçoit un nouveau nom que porte Jésus-Christ. Et nos noms, ils sont connus de Dieu et ils restent écrits dans le livre de vie. Donc là aussi, on a un rapport avec le nom et on voit avec un rapport avec notre individualisation. Nous, chacun, indépendamment, on est écrit dans le livre de vie à partir du moment où on croit au Seigneur Jésus. Alors, j'avais mis en détail, mais voilà. Et donc, on a aussi encore dans l'Apocalypse des rapports avec le nom. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ben voilà, en fait, on change sans trop le savoir tous de nom au moment où on se convertit. Et même si on ne l'utilise pas pour nous appeler, mais on pourrait, en s'appelant frère et sœur finalement, on reconnaît qu'on a tous le même nom de famille, entre guillemets, qui est de Christ. Alors, les conséquences d'une nouvelle naissance. Effectivement, il y a un nouveau nom, mais il y a aussi un nouveau caractère. Et ça, c'est ce qu'on voit transparaître dans certains des gens qui ont effectivement eu leur nom qui a été changé au fil du temps. Et donc, au-delà des mots, ben, Dieu va changer notre caractère. Donc, on avait Simon, l'homme en dents de scie, qui devient Pierre, une colonne de l'église primitive. On a Saul de Tarse, qui devient l'apôtre Paul, qui est un fondateur d'église, alors qu'il était persécuteur d'église avant. On a Jacob, bon, j'ai déjà dit, le trompeur, qui devient Israël, le père de 12 tribus, etc. Voilà, donc quand on accepte de devenir enfant de Dieu, ben, nos vies, nos caractères changent. Bien sûr, si on laisse Dieu se manifester en nous, et de crucifier spirituellement notre vieille nature. Voilà, on n'a plus à porter les cicatrices du passé. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un rapport avec les étiquettes. Souvent, on dit, ah oui, mais on met des étiquettes sur les gens. Ben, en fait, avec cette conversion, on peut enlever toutes les étiquettes. On n'est plus tributaire de notre passé. La rencontre vraiment personnelle avec Dieu peut nous changer. On peut passer de colérique à doux, on peut passer d'impur à pur. Et ça, c'est au-delà de notre nom, c'est vraiment aussi nos caractères qui peuvent vraiment changer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, donc il ne nous promet pas que notre vie sera sans problème, mais il peut guérir notre passé. Quel que soit notre passé, voilà, on peut enlever ces étiquettes, enlever ce fardeau, et Seigneur, il va porter tout ça. Il peut le porter si on lui remet. Voilà, donc ça aussi, je trouve ça intéressant, avec notre nouvelle identité en Christ, de voir que, ben, en partant du nom, on va aussi arriver à du caractère, des étiquettes, qui peuvent parfois rejaillir dans les noms, mais Dieu prend tout ça pour lui. Donc on peut nous appeler le râleur, on peut nous appeler le nul, le solitaire, l'égoïste, le petit, ou alors le professeur, ou alors même avec des handicaps, l'épileptique, le séducteur, on peut avoir toutes ces choses-là, ben, Dieu, il peut décoller toutes ces étiquettes en nous transformant, voilà, si on l'accepte. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose d'important et qu'il ne faut pas, il faut pas vraiment laisser ces étiquettes du passé nous définir. Hein. C'est pas elles qui nous définissent maintenant, notre identité, elle est en Jésus. Au contraire, il y a un verset dans 1 Pierre 2,9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc c'est ça plutôt notre identité. Alors en rapport avec le nom aussi, je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'hommes qui essayaient de laisser leur nom dans l'histoire avec ce qu'ils ont fait. On a aussi une volonté un peu d'éternité, un peu qui se dégage derrière, mais évidemment c'est pas la bonne façon de faire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est nous, ben, après notre mort, est-ce que notre parcours sur Terre va laisser la trace de notre nom, pas le nôtre, mais de Christ? Voilà, qu'est-ce qu'on va refléter de notre vie? Est-ce que finalement notre nom, pas le nôtre, mais enfin voilà, qu'est-ce qu'on va laisser? Est-ce qu'on va laisser des choses, des fruits qui parlent de Dieu? Alors, maintenant, je voudrais arriver sur les noms de Dieu. Et parce que, alors, notamment, Joël avait dit ça il n'y a pas très longtemps, quand on a commencé l'introduction à la Genèse. Dans la Genèse, il y a une grande variété de noms de Dieu. Et ça révèle toutes les facettes, enfin, beaucoup de facettes différentes de qui est Dieu. On va mieux le connaître, c'est ce qu'il avait dit. Ben, voilà, l'idée ici, c'est de voir, alors, ce n'est pas exhaustif, mais il y en a un certain nombre, des caractéristiques de Dieu dans son nom qu'on va pouvoir voir. Et on a par exemple Elohim qui est utilisé notamment en Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc c'est Elohim qui veut dire Dieu créateur puissant et fort. On sent, voilà, tout ce qui se dégage de cette création est dans le mot Elohim. Et d'ailleurs, c'est la forme plurielle de Eloé. Et donc dès ce premier verset, en fait, on a une forme plurielle, et c'est aussi ça qui est riche a priori dans l'hébreu, c'est que on voit que Dieu il est multiple, et il y a aussi donc Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, parce qu'avec ce pluriel, on l'a vraiment dès ce premier mot dans le premier verset de la Bible. On a aussi bien évidemment Yahweh, Jéhovah, tout ça c'est la même racine et donc, ça se traduit dans nos Bibles, la plupart du temps, par l'Éternel. C'est à distinguer du mot Adonai. Je crois que les Juifs, ils n'osent pas prononcer le mot de Yahweh et ils utilisent Adonai, qui est plutôt Seigneur, voilà, pour pas dire le mot parce que avec conscience de leur péché, il s'empêche de dire le mot Yahweh. Mais voilà, c'est quelque chose qui est plus éternel. Et là, c'est dans Deutéronome 6,4 où on a Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc voilà, c'est ce qu'on a. Et on va avoir beaucoup de déclinaisons de ce Yahweh avec des précisions dans un certain nombre de passages que je vous propose de regarder. Et donc, on va avoir Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoit ou pourvoira. Dans Genèse 22, c'est le nom qui est donné par Abraham à Dieu quand il a pourvu au sacrifice à la place d'Isaac, il y a eu le bélier. Et donc, il l'appelle Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Donc, c'est une des caractéristiques de notre Dieu. Et puis, on va voir aussi Yahvé Rapha, l'Éternel qui me guérit. Donc, ça, on va le retrouver dans Exode. Quand il a enlevé l'amertume des eaux de Mara, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Et donc, il va nous pouvoir nous guérir notre corps en nous préservant des maladies, en les guérissant, mais aussi notre âme en pardonnant nos iniquités. On a aussi Yahvé Nissi, le Seigneur est ma bannière ou mon étendard. On le retrouve dans Exode 17, verset 15. Donc l'étendard ou la bannière, c'est un point de ralliement, c'est quelque chose qu'on voit, et ce nom commémore la victoire contre les Amalécites dans le désert. On va avoir Yahweh Makadesh, le Seigneur qui me purifie. Lévitique 20, verset 8, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et donc là aussi, c'est pas les lois qui purifient, c'est Dieu qui purifie et pas la loi. Et qui peut sanctifier son peuple. Une autre caractéristique de Dieu, on en a parlé un petit peu ce matin, Yahvé Shalom, l'Éternel est ma paix. Par exemple, on le rencontre dans Juges 6, verset 24. On a Gédéon qui voit l'ange de l'Éternel et il a cru qu'en le voyant, il allait mourir. Et en fait, l'Éternel, il lui dit, Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et là, Gédéon, il bâtit un autel et qu'il appelle l'Éternel paix, Yahvé Shalom. Une autre caractéristique aussi, un autre nom qu'on trouve de Dieu dans la Bible, Yahvé Tsikenu, à peu près. L'Éternel, notre justice. Donc on l'a par exemple dans Jérémie 33, je vais lire ce passage-là. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Donc, Yahvé Tsidkenu. Voilà, l'Éternel est notre justice, et là, ce passage en plus fait référence de manière prophétique à la venue du Seigneur Jésus, évidemment, l'Éternel, notre justice. Ça résonne aussi avec 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est Dieu seul qui justifie l'homme en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui est devenu péché pour nous. Afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voilà, on retrouve vraiment ce terme, cette caractéristique de la justice de Dieu dans différents passages avec cette partie-là. On a Yahvé Rohi, le Seigneur est mon berger. Psaume 23, hein, David qui a médité sur sa propre relation de berger avec ses brebis. Et voilà, il a compris que la relation qu'il a avec ses brebis, c'est vraiment la même relation que Dieu avait avec lui. Et donc il dit, L'Éternel est mon berger, je ne me manquerai de rien, Yahvé Rohi. Et puis on a Yahvé Shammah, le Seigneur est ici. Ézéchiel 48, verset 35, c'est le nom qui est donné à Jérusalem et au temple, qui indique que la gloire de l'Éternel qui les avait quittés dans le passé, elle est de retour, l'Éternel est ici. Et puis, je crois que le dernier que je vous ai mis, c'est Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. On a par exemple Psaume 46, versets 7 et 8, des nations s'agitent, je trouve ça assez actuel aussi, comme ce qu'a dit Ludovic un peu tout à l'heure, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Voilà, c'est le Seigneur des armées célestes et de tous les habitants de la terre. Et donc on voit toute la majesté, la puissance et l'autorité de Dieu, même dans ces circonstances difficiles, et il peut tout accomplir ce qu'il a déterminé, l'Éternel des armées. Donc il y en a d'autres, hein. Il y a El Shaddai, c'est le puissant de Jacob, voilà, il y a d'autres noms de Dieu, mais quand on regarde juste la liste avec la signification qu'on a en face, On a déjà un programme assez magnifique et qui nécessiterait potentiellement de s'arrêter beaucoup plus longtemps sur chacune. Mais voilà, on a vraiment un beau programme et en fonction de nos circonstances, on peut aussi s'approprier peut-être plus l'une des facettes que l'autre qui va faire écho à des difficultés dans notre vie. Et voilà, on peut vraiment s'approprier ces attributs de Dieu, les appliquer dans notre vie. Et on a le fameux je suis quand il va parler à Moïse qui résume aussi tout ça. Voilà, il y a Seigneur, il est là avec nous, il est tout. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est un sacré programme. Et son nom va vraiment pouvoir agir dans notre vie en regardant toutes ces caractéristiques-là qui sont juste un extrait de ce qu'on peut trouver. Voilà, et puis en regardant aussi les noms de Jésus. Donc Jésus, ça vient du grec Jésus, qui vient de l'hébreu Yeshua, Jéhovah sauve ou Jéhovah délivre. Voilà, donc déjà le nom signifie Dieu sauve. Et donc c'est à la fois son nom et sa mission, un peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure, on a sa caractéristique qui est présente dans son nom. Et puis dans Ésaïe 7, verset 4, qui est cité par Matthieu, on a écrit, donc, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Donc là, il n'est pas appelé Jésus, mais Jésus, quand il est venu, il a vraiment pleinement incarné ce précepte de Dieu avec nous. Il a été fait chair, il est venu au milieu de nous, et donc, ce n'est pas juste une histoire de nom, mais il est avec nous et il est celui qui sauve. Et donc, on a aussi la promesse au moment où, à la fin de l'évangile, il envoie les 11 en mission, il dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, Matthieu 28, 20. Et donc on a vraiment Jésus qui est cet Emmanuel qui accomplit vraiment parfaitement ben, le dessein de Dieu. Donc voilà, Dieu avec nous. Et puis on a Christ, donc qui vient du grec Christos, lui-même traduit de l'hébreu Messia, qui signifie Messie, celui qui est oint, le choisi par Dieu. Donc si on regarde Jésus-Christ, ce que ça veut dire, ça veut dire Dieu Sauveur revêtu de toute l'onction et de l'autorité pour sauver. Voilà, et ça, jamais l'humanité n'aura connu et connaîtra un nom dont la puissance et le rayonnement sont aussi impactants. Et voilà, ce que Dieu peut faire dans nos vies, ce que peut faire dans la vie de chacun, ben c'est un, voilà, son nom et tout un programme magnifique. Et donc, c'est aussi pour ça que dans Philippiens 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, ici c'est bien au nom de Jésus. Et voilà, par rapport à l'introduction, ben, en fait, je pense que ça répond un peu à mes questions originelles. Dieu Sauveur revêtu de toute l'onction et l'autorité pour sauver. Et c'est vraiment ça qu'on peut mettre en avant. On a vu aussi toutes les caractéristiques du nom de Dieu. Donc oui, maintenant, je peux dire que son nom est magnifique. Je comprends mieux un petit peu ce qu'il y a derrière. Et sa personne est magnifique, mais le nom est porteur de beaucoup de caractéristiques de sa personne. Donc avec un peu ces explications, voilà, je peux chanter beaucoup plus facilement les différents chants. Et je vous propose pour terminer de chanter le 247 des reflets.